écho, billet d'humeur ou chronique, anecdote ou histoire, culturelle et musicale. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour et encore une fois merci à toutes les auditrices et auditeurs fidèles à ce programme. Bonjour aussi à tous ceux qui profiteront de la rediffusion de ce programme, quelles que soient les radios, ou de l'écoute en podcast quand bon vous semblera. Alors le mois dernier, avec le thème sur l'élégance, j'abordais un sujet qui à mes yeux fait cruellement défaut dans ce monde. Dans ce quatrième épisode de cette 21e saison, je me laisserai aller à exprimer l'agacement profond que me provoque l'attitude sectaire de certains, pour ne pas dire de beaucoup. Comme je le répète souvent, les sujets abordés sont souvent liés à l'envie que j'ai de partager les choses qui me surprennent, qui m'émerveillent, qui me manquent, qui me révoltent ou plus légèrement qui me dérangent. Et comme me le faisait remarquer un ami, ce programme Orinoco a tout d'un édito, un édito étant un article de fond exprimant l'opinion du rédacteur sur un sujet donné, ce qui sera le cas pour cette émission. Alors, pour en revenir au thème, sectarisme, chauvinisme, pédantisme et suffisance, je tiens à rappeler que lorsque l'on évoque le sectarisme, beaucoup pensent peut-être qu'à l'aspect religieux. Mais dans ce programme, je m'intéresserai à tous les autres domaines de notre quotidien où sévit l'intolérance, le manque d'ouverture d'esprit et les préjugés. Car le sectarisme, le dogmatisme, le communautarisme, le chauvinisme, le pédantisme, thème de cette émission, n'épargne personne, ou du moins peu. Car cet entre-soi ridicule qui oppose les riches aux pauvres, les sportifs aux intellectuels, les urbains aux ruraux, les travailleurs du secteur public à ceux du privé, et la liste serait longue à énumérer, est d'une stupidité navrante. Alors est-ce par vanité et suffisance, par manque de culture, par arrogance et prétention, ou tout simplement par sottise? Mais comment se doit-on de ne pas connaître Lionel Messi si nous sommes admirateurs de Maria Callas? Comment se doit-on de ne pas aimer Paris si nous sommes nés à Marseille? Comment se doit-on de ne pas apprécier les traders, les bureaucrates en règle générale, si nous sommes agriculteurs, soudeurs ou maçons? Et l'odeur d'une bergerie, même si nous sommes nés chez Cacharel ou Serge Lutens? Il est bien entendu que toutes ces oppositions que je viens d'énumérer sommairement se lisent dans les deux sens. Dans cette histoire, il n'y a pas les bons et les méchants, les mauvais et les gentils, les malins et les stupides. Quand les fouteux ignorent et se moquent des golfeurs et vice-versa, quand les amoureux des arts lyriques ignorent et se moquent des rappeurs et toujours vice-versa, on est en droit de se poser quelques questions. Est-ce de l'intolérance et un manque d'ouverture envers les différences culturelles, sociales ou personnelles? Est-ce un préjugé, c'est-à-dire une opinion préconçue et négative envers les personnes différentes, souvent basée sur des stéréotypes? Est-ce discriminatoire, agissant de manière à exclure ou marginaliser les personnes perçues comme différentes? Est-ce narcissique, pouvant ignorer les autres pour se sentir supérieur? Ou est-ce simplement par sottise ou par paresse? Ou bien, dans ma grande mansuétude, je rigole, tout simplement par manque de temps? Comme vous l'avez compris, ce programme sera un tableau de toutes ces dualités, ces oppositions, ces mondes qui s'ignorent et parfois se détestent, alors qu'ils sont ou du moins devraient être complémentaires et indissociables. Et c'est pour cette raison que le programme musical qui me servira à illustrer ce programme sera très éclectique. En préambule, pour peut-être expliquer ce phénomène, je dis bien peut-être tenter d'expliquer ce phénomène et surtout pas tenter de le justifier, c'est éventuellement, du moins je le pense, la faute d'un système, à vrai dire de plusieurs systèmes. Et nous commencerons par le système familial, communément appelé le cercle familial. Le premier lieu dans lequel baignent ou devraient baigner normalement les enfants. Alors, comment peut naître, dès le plus jeune âge, l'intolérance, les préjugés et l'ignorance, qui rapidement se transformera en chauvinisme, sectarisme et dogmatisme, pour conduire les adultes à l'inconvenance, à la suffisance, l'arrogance, parfois la condescendance, et par-dessus tout la sottise et l'ignorance. Eh bien, une attitude et des habitudes héritées de leurs parents conduisent les nouveaux parents à protéger leur bambin de toute agression extérieure. Et qu'entend-on généralement par agression extérieure? Eh bien, en dehors des prédateurs sexuels ou autres dangers inhérents à la circulation et à tout déplacement urbain ou rural, il y a tout ce qui sort de nos habitudes, de nos coutumes et de nos traditions familiales. Voulez-vous quelques exemples? Le dernier en date, pas si vieux, remonte à un repas pris dans le restaurant d'une très belle école hôtelière. Pour assurer un nombre constant de couverts, le chef d'établissement invite chaque midi des enfants des écoles de la ville pour profiter du nombre de repas préparés s'il n'y a pas suffisamment de clients. Et ce jour-là, il y avait un avocat crevette sauce cocktail en entrée. Et voyant tous les gosses ne pas toucher à cette entrée, je me suis permis de demander à quelques-uns pourquoi ils n'en mangeaient pas. « C'est pas bon, ça », me dirent-ils. Et leur demandant ce qu'ils auraient aimé, du pâté ou de la saucisse ou du jambon. Sans vous en dire davantage, vous comprenez que cette anecdote se passait à la campagne, dans une région de moyenne montagne, où les parents eux-mêmes avaient été nourris avec de la cochonaille, des patates et du fromage. Et comme on le dit, les chiens ne faisant pas des chats, il est évident qu'en 2025, il n'entre toujours pas de poissons ou de crustacés dans ses foyers. Question de moyens? Non. Question d'habitude. C'est difficile de sortir de cette zone de confort dans laquelle nous ont placés nos parents et arrière-grands-parents. Je viens de vous prendre la bouffe en exemple. Mais dans une région catho, vous êtes catho de père en fils. Dans une région protestante, vous êtes protestant. Dans une région de rugby, n'allez pas jouer au foot, ce sport de manchot. Et même si les réseaux sociaux donnent l'impression d'ouvrir le monde sur les autres, ils les enferment le plus souvent, grâce ou à cause des algorithmes, dans un microcosme correspondant à leurs croyances, à leurs pratiques et leurs opinions, qu'elles soient idéologiques, culturelles ou alimentaires. Pourquoi y a-t-il tant d'artistes dont les parents étaient eux-mêmes artistes? Et je pourrais décliner ce constat avec les notaires, les médecins, les boulangers, les pêcheurs, les agriculteurs. Et si, dans une certaine mesure, ça vous paraît normal, il est intéressant de décortiquer ce phénomène pour déceler les pièges, les écueils et les dangers que cela induit et provoque. Et voir aussi tous les domaines dans lesquels cette suffisance, cette arrogance et cette ignorance vient se nicher. Alors avant d'énumérer des exemples où viennent se nicher l'ignorance, le chauvinisme et les préjugés, puis, par la suite, prendre le temps d'examiner le deuxième système où est entretenue et parfois développée la suffisance et la condescendance, ouvrons une large parenthèse sur les deux arguments qui me sont opposés dans chaque conversation à ce sujet. Alors je vais commencer par une phrase, avant d'aborder le mot « clé » que j'entends à chaque fois. La phrase c'est « on n'est pas obligé de tout connaître non plus ». Ce qui est vrai. Mais quand je citais l'exemple véridique, pas inventé, hein, d'une personne, d'une amie, assez jeune et passionnée d'art lyrique, me dire « ne pas connaître Lionel Messi », accompagné de la phrase « on ne peut pas tout connaître », les bras m'en sont tombés. Si je lui avais parlé, je ne sais pas, de Dylan Thomas Gorosito, un Argentin né en 2006 à Moreno et faisant partie des défenseurs du club Boca Junior, ce fantastique club fondé en 1905 dans le quartier populaire de la Boca à Buenos Aires. J'aurais pu comprendre qu'elle ne le connaisse pas. Mais là, il y a autre chose derrière cette ignorance. Et pour ne pas stigmatiser une catégorie de personnes, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin en demandant à un joueur de foot s'il connaissait Maria Callas. Même réponse. Là encore, si je lui avais parlé, je ne sais pas, de Juliette May, mettons cette Toulousaine de 24 ans qui poursuit son irrésistible ascension et qui décrocha le prix jeune soliste en 2024. J'aurais pu comprendre. Mais ça me fait penser un peu à la réponse que certains jeunes que l'on interroge sur Charlemagne, sur Napoléon, sur Charles de Gaulle, disent « je peux pas savoir, j'étais pas né à cette époque ». Est-ce un alibi pour faire diversion, une excuse ou un paravent pour masquer une certaine forme d'ignorance ? D'ignorance ou parfois d'arrogance et de mépris pour tout ce qui n'est pas de leur milieu. Et pour masquer ou justifier d'autres attitudes ou pratiques ou regards sur les choses du quotidien, il y a un mot qui revient souvent lui aussi. C'est le mot « tradition ». Quand je prenais tout à l'heure l'exemple de la bouffe et de ces gosses qui, à 15 ans, n'avaient jamais bouffé un avocat et des crevettes, nombreux m'ont dit « c'est normal, c'est pas la tradition ici, puis c'est bien de conserver les traditions ». Et ceux m'ayant répondu ça, étant eux-mêmes de la région et sans aucun doute grands consommateurs de charcuterie, patates et fromages, au nom des traditions, j'aurais pu leur demander pourquoi ils montaient leurs bêtes en estive avec une bétaillère et pas à pied, comme le voulaient les traditions de la transhumance. Pourquoi ils ne faisaient plus leur beurre à la baratte avec le lait de leur vache, comme le voulait la tradition, mais qu'ils préfèrent l'acheter à la supérette du coin. Pourquoi ils n'allaient pas au bal en sabots pour danser la bourrée, au nom de la tradition, mais qu'ils allaient en bagnole avec des pompes Adidas, Puma ou Nike aux pieds. Elle a bon dos, là, la tradition, pour dissimuler une forme de conservatisme, de protectionnisme rétrograde et dépassé. Il faut parfois savoir s'en passer, s'en séparer des traditions. Il y a quelque temps, si une femme savait mélanger quelques herbes sauvages pour préparer des breuvages capables de soulager, elle était considérée comme une sorcière et était brûlée. Aujourd'hui, avec les mêmes capacités, on lui ouvre une officine et elle devient pharmacienne. Ce n'est pas mal d'arrêter la pratique de certaines coutumes et traditions. Celle capable de regarder dans les astres pour prévoir le temps subissait le même sort. Aujourd'hui, Anaïs Baïdemir, Chloé Nabédian, Evelyne Delia ou Catherine Laborde passeraient à la casserole plutôt que de passer à la télé pour le bulletin météo. C'est pas mal d'arrêter la pratique de certaines coutumes et traditions. À l'époque où ma grand-mère est née, c'était pas le Moyen-Âge, eh bien les chirurgiens ne stérilisaient pas les bistouris, constatant une meilleure cicatrisation et en parallèle un nombre de mortalités élevées dues à des septicémies qu'ils n'expliquaient pas. C'est bien la tradition, mais ça a ses limites. Où est l'époque où tourtes, pâtés en croûte et millefeuilles garnissaient les tables, suivis de poulards, de pièces rôties et gibier en civet. Même à l'Élysée aujourd'hui, un menu pour de grandes circonstances est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert copieux et de qualité, mais loin des traditions gastronomiques d'antan. Je pense qu'il a bon dos ce mot « tradition » pour masquer à vrai dire un manque d'ouverture et un sens profond de l'entre-soi. L'entre-soi étant un concept qui désigne la tendance des individus à se regrouper avec des personnes qui leur ressemblent sur différents critères sociaux, culturels, économiques, géographiques. Que dire encore du bizutage, amenant une personne à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants? Heureusement, cet ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés, destinés à symboliser l'intégration d'une personne au sein d'un groupe social, est, en France, puni par le code pénal. Ces rites, pratiqués au nom des « traditions », sont par bonheur interdits depuis 1998. Les traditions, ça a du bon, mais en abandonner certaines, ce n'est pas plus mal. Et c'est l'ensemble de ces réticences à s'ouvrir à d'autres choses qui font que des amis à moi adorent le civet de lièvre ou le bœuf bourguignon, cette spécialité bourgeoise incontournable originaire de Bourgogne, mettant en valeur une viande de bœuf mijotée dans du vin rouge avec des légumes, réputée pour sa richesse de saveur et sa texture fondante. Ces amis n'ont jamais mis les pieds chez McDo, Burger King ou KFC, le spécialiste du poulet frit. Prétendant une soi-disant préférence pour une alimentation saine et équilibrée. Les fast-foods étant considérés comme riches en calories, en sucre, en graisses saturées et en sel, mais pauvres en nutriments essentiels pouvant entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Mais les acides gras saturés qu'on trouve dans les produits laitiers gras, les viandes grasses et la charcuterie dont ils raffolent font partie des aliments à limiter ou éviter. Quant à l'alcool, à consommer avec modération, peut augmenter le risque d'hypoglycémie et de maladies cardiovasculaires. On n'en trouve pas dans les fast-foods. Je ne suis pas en train de faire la promo de telle ou telle sorte de restauration, mais juste en train d'expliquer que les raisons fallacieuses invoquées me paraissent vouloir masquer, en réalité, une forme de sectarisme alimentaire. Tout en rappelant, ou en signalant si je n'en ai pas parlé, que le but de cette émission n'est pas de moquer ou dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement de tenter d'expliquer les raisons profondes et multiples de ces comportements sectaires, voire dogmatiques, de ces regards élitistes, chauvins et parfois condescendants. Car toutes ces attitudes ou presque trouvent des raisons d'être, bonnes ou mauvaises soient-elles. Ce qui sous-entend que l'ensemble des exemples choisis, ainsi que ceux à venir, n'ont pas pour but de stigmatiser une ou des personnes en particulier. Et si par hasard, vous vous reconnaissez au travers de ces exemples et anecdotes, posez-vous honnêtement la question, si vous le souhaitez. Quelles sont les raisons profondes et véridiques qui m'amène à avoir ce genre d'attitude, ce comportement, ces réactions. Sachez aussi que je ne m'exclus pas de ce genre de questionnement. Même si par bonheur je me sens aussi à l'aise et que je prends autant de plaisir avec des petits fours et une coupette de champagne à la main lors d'un vernissage que les fesses sur le trottoir en compagnie d'un mendiant et son chien à partager une croix et un hot-dog. Et que j'ai les mêmes émotions en voyant Shane Lowry, l'un des Irlandais de la Ryder Cup, enfiler un putt au 18 pour permettre à l'Europe de conserver la coupe, que de voir les larmes de Nadège Biot, Paul Forel et Philippe Duchin, titrés champions de France de pétanque en triplette mixte cet été à Bergerac. J'ai aussi le bonheur d'être autant pénétré par Preeti Yende et Nadine Sierra, deux des plus grandes étoiles du firmament lyrique, unissant leurs forces pour le duo des fleurs dans L'Acmé, un opéra en trois actes, de Léo Delibes, que par les solos de guitare saturée de Jimi Hendrix. Je sais que certains, voire nombreux, aimeront et préféreront l'un ou l'autre. C'est pour cette raison que je me considère privilégié. Mais qu'on aime ou pas, c'est secondaire. Le plus important, c'est d'en ignorer aucun. On peut signaler aussi, pour en rassurer certains, que ce phénomène de l'entre-soi n'est pas nouveau et qu'il trouve ses origines depuis l'apparition de l'espèce humaine. Durant des millénaires, les êtres humains ont vécu en petits groupes où la survie dépendait du respect des normes du groupe. Ceux qui étaient perçus comme différents étaient souvent exclus ou éliminés. Cette attitude a créé une quasi-obligation de conformité et d'homogénéité de chacun au sein du groupe. Et même si les contraintes de survie ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, et que l'on peut aujourd'hui choisir son mode de vie, son métier et notre domicile, ces attitudes de l'entre-soi n'ont pas changé et peut-être même évolué. Et c'est là où le deuxième système intervient, le système éducatif et la formation. Pourquoi ? Par une spécialisation à outrance avec des choix et des orientations dès le plus jeune âge. La spécialisation des métiers a créé des communautés professionnelles fermées où les individus partagent les mêmes compétences, les mêmes valeurs et les mêmes perspectives. La ségrégation urbaine a créé des quartiers résidentiels homogènes où les individus se regroupent en fonction de leur niveau de vie, de leur culture, de leur religion. La mobilité sociale a également contribué à renforcer l'entre-soi en permettant aux individus de choisir leur environnement social en fonction de leurs aspirations et de leurs goûts. Ces facteurs ont créé des îlots sociaux où les individus interréagissent, principalement avec des personnes qui leur ressemblent. Cela peut renforcer les liens sociaux et l'identité collective, mais cela peut aussi conduire à la légitimation de l'exclusion, de la stigmatisation des minorités, à la reproduction des inégalités et des discriminations. Un article de « Que veut dire un blog pour s'enrichir d'informations, de définitions et de savoirs partagés » relatait quelques exemples que je vais partager avec vous. Les clubs sociaux ou professionnels, qui ne permettent l'adhésion qu'à des personnes ayant des intérêts ou des professions similaires. Les quartiers résidentiels homogènes, où les résidents partagent des caractéristiques telles que le niveau de revenu, la race ou l'ethnicité. Les groupes d'amis, qui partagent des intérêts communs tels que la musique, le sport ou les loisirs. Les établissements scolaires eux-mêmes, ou universitaires, qui ont des populations étudiantes homogènes. Alors certains peuvent me dire, oui, mais l'exemple que vous avez cité, Maria Callas et Lionel Messi, ce sont vraiment deux mondes très différents. Vous avez raison. Même si ça n'excuse rien à mes yeux. Mais vous allez voir, pour aller dans votre sens, je vais prendre des exemples au sein d'une même discipline ou d'une même activité, appelez ça comme vous le désirez, la musique. Et oui, même au sein d'une même discipline, des murs, des barrières, que dis-je, des frontières sont construites pour se barricader, se protéger ou je ne sais quoi. Et pour l'illustrer, je vais prendre deux milieux qui s'ignorent, du moins en France. Le métal et le classique. Alors si je dis en France, c'est que, en ayant écouté sur Radio France Corentin Charbonnier, le co-commissaire avec Milan Garcin de l'exposition Metal Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris en 2024, il disait: il n'y a pas eu de spectacle en France qui unisse les groupes de métal et les orchestres dans des grandes salles. À part Gojira, un des premiers à mettre en avant le rapport entre la musique classique et le métal à l'échelle planétaire, à l'occasion des JO avec Marina Viotti et l'Orchestre de Paris. il y eut peu de liens institutionnels entre les deux genres musicaux. Alors qu'en Norvège ou en Allemagne, dans les musées d'État, il y a une collection permanente sur le métal à côté de la collection classique. C'est une chance d'avoir eu la Philharmonie s'y intéresser en programmant cette première exposition sur le métal en France, qui marque un premier lien. Faites l'expérience de demander aux amoureux d'Emmanuel Chabrier, de Poulenc ou de Sibelius s'ils connaissent Metallica, Motorhead ou Rammstein, et vice-versa, hein, aux fans d'Iron Maiden, d'ACDC ou de Korn, s'ils ont une idée de qui est Leos Janáček, Smetana ou Dvorak, trois des plus grands compositeurs classiques tchèques. Leur réponse vous glacera le sang, du moins, c'est l'effet que ça a sur moi. Dans tous les cas, je ne demande pas à certains d'aimer ce que l'autre fait, non, seulement de connaître. Et c'est dommage car, d'après Marina Viotti, une mezzo-soprano qui remporta un Grammy Award pour la meilleure performance métal aux côtés du groupe français Gojira à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, je la cite, ce sont des univers assez proches, dans le côté épique, dans la composition. Quand on prend du Vivaldi, c'est presque des riffs de guitare parfois. Si Vivaldi avait eu une guitare, je suis sûr qu'il l'aurait mis dedans. Et de la même façon, il y a plusieurs types de métal qui ont un côté mélodique, très proche d'une mélodie classique, finalement. Une évidence à l'étranger qui a toujours du mal à passer en France. Le problème, ce sont surtout les fans et leur ignorance, car, comme le rapportait Corentin Charbonnier, le co-commissaire de l'exposition Metal Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris en 2024, tous les musiciens fondateurs de la musique métal ont revendiqué l'écoute du classique en citant Mozart, Beethoven, Wagner. Ce qui les séduit, c'est la virtuosité, la complexité de l'écriture et la richesse des couleurs orchestrales. Allez écouter ou voir la vidéo de Metallica jouant avec le San Francisco Symphony Orchestra et vous verrez comment des riffs de guitares électriques peuvent matcher avec des violons, des clarinettes, des contrebasses, des violoncelles, derrière la baguette d'un chef d'orchestre. Alors ça ne fera peut-être pas plaisir aux métalleux ni aux mélomanes, mais à vrai dire je m'en moque un peu, car ça fait tellement de bien de mettre un petit coup de pompe dans cette fourmilière de l'entre-soi qui grouille avec ses codes et ses accès privés et protégés. Quand je soulignais que le problème était plus dans les mains des fans que des acteurs eux-mêmes, on peut quitter la musique pour aller vers le sport. Là encore, il y a beaucoup à dire quant aux fans qu'on appelle supporters à qui l'on accorde et tolère beaucoup de choses au nom du supporterisme. Le titre de cette émission étant « Sectarisme, chauvinisme et suffisance », l'étendre aux supporters de foot n'a rien d'inconvenant. Il correspond en tout à la définition de ces trois termes. Quand je dis que l'on tolère beaucoup de choses, je veux parler, entre autres, des chants racistes ou des chants homophobes, des propos d'une suffisance et d'une condescendance parfois outrancières. Mais développer ce thème pourrait faire l'objet d'une autre émission à part entière. Et puis rassurez-vous, il n'y a pas que les coincés de la ZIC qui vont être à l'honneur, ni les coincés de la bouffe. Ceux qui ne mettront jamais les pieds dans un fast-food et ceux qui se demandent comment on peut apprécier une tête de veau à 9h du mat, ni les footeux, les golfeurs ou les pétanqueurs. On n'est pas obligé d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche ou la capsule d'une canette de croc, non. Ça peut être les deux à la fois ou bien une racine de manioc ou un morceau de caribou, boucané. Tout fait ventre, disait ma grand-mère. Alors, je vais peut-être en perdre quelques-uns en cours de route, mais je vais prendre d'autres exemples. Tu vas où en vacances cet été ?
À Angers.
C'est où ça ?
Dans la vallée de la Loire.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas ?
Visiter le château d'Angers, hein, qui abrite la célèbre tapisserie de l'Apocalypse,
ou bien se promener dans les rues pavées avec ses maisons à colombages,
ou bien louer un vélo aussi pour explorer les bords de la Maine à moindre coût.
Et toi, tu vas où ?
Oh, comme chaque année, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Alors là, encore, je ne fais la promotion ni du centre Val-de-Loire, ni de cette presqu'île confidentielle coincée entre Nice et Monaco, non. Je veux juste souligner que des goûts personnels ou des questions de moyens, surtout, peuvent vous conduire à choisir certaines destinations plutôt que d'autres, sans pour autant devoir ignorer les autres. Et je comprends que de se retrouver coincé sur une plage à Palavas puisse ne pas plaire à tout le monde, que de passer des vacances au camping ne soit pas le choix de certains. Mais quoi qu'il en soit, les raisons qui conduisent nombreuses personnes en France à choisir ce genre de séjour ne nous appartiennent pas et nos goûts personnels n'ont pas à moquer ou ignorer le choix et le goût des autres. On pourrait penser que je prends la défense des plus démunis. Mais la lecture est aussi vraie dans l'autre sens. Les moins aisés sont souvent critiques et ignorants de pratiques réunissant les classes sociales plus favorisées. Combien de fois il m'arrive d'entendre, quand je parle du golf, des gens de la région me dire « Oh, c'est un sport de rupin, ça !» La plupart de ceux qui me disent ça sont chasseurs ou ont un fiston qui fait de la moto, tout terrain. Ou, malheureusement, laissent une bonne partie de leur paye au comptoir. Le coût d'une année de chasse en France, en 2025, peut varier entre 200 et 500 euros. Pour un chasseur débutant, selon les options choisies et la région. Sans compter le prix du fusil aux alentours de 1500 euros. Sans taper dans le haut de gamme. Quant à ceux qui font de la moto avec un casque à 500 balles, des bottes à 200 balles, les assurances, les inscriptions, et je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on est largement au-dessus de ce que coûte le golf. Là encore, ça dépend des régions. Quant à ceux qui n'y entendent rien et qui vous parlent d'écologie et qui ignorent la flotte dont a besoin leur terrain de foot, au golf, seuls les greens sont arrosés. Ça ne représente pas la surface d'un terrain de foot. Le but, là encore, n'est pas de faire la promo d'un sport plutôt que d'un autre, mais juste de montrer que l'ignorance, le dogmatisme et la suffisance peut amener n'importe qui à dire n'importe quoi. Et c'est, je tiens à le souligner, cet obscurantisme, cette inculture, ces embrigadements sectaires, ces regards réducteurs, simplistes et maladroits que je tiens à dénoncer. Ok, me direz-vous, pour ce qui est du sport, puis de la musique, je vous l'accorde, de la gastronomie aussi. Mais je vous rassure, si j'ai tenu à consacrer une émission à ces problèmes, sectarisme, chauvinisme, dogmatisme, préjugés, ignorance, condescendance et suffisance, c'est qu'ils touchent bien d'autres domaines, et l'on peut même dire tous les domaines. Je vais vous prendre un autre exemple, dont je peux parler, comme tous les autres d'ailleurs, car il est une fois de plus personnel. Devant faire passer un message collectif aux membres d'une association, le jeune secrétaire, un peu ennuyé quant aux moyens à utiliser, évoquait différents supports qui me paraissaient un peu dépassés, du genre « je les appellerai » ou « je leur enverrai un mail ». Pourquoi pas des signaux de fumée comme les Indiens. Quand je lui ai suggéré de créer un groupe sur une plateforme de messagerie instantanée chiffrée, il m'a demandé à quoi je pensais. Je lui ai répondu, celle que tu veux parmi
Les applications de messagerie les plus sécurisées, Signal, Telegram, WhatsApp, ou une autre. Précisant que WhatsApp était peut-être la plus utilisée. Et là, de m'entendre dire « oui, mais il y a beaucoup de vieux ». Du haut de mes 71 piges, et faisant partie des plus vieux, je n'ai même pas compris ce que signifiait sa réponse. Lui demandant de préciser, il m'expliqua qu'il était sûr que les vieux, entre guillemets, n'utilisaient pas ce genre de messagerie, gratuite, je le précise. Oubliant certainement que tous les grands-parents communiquent avec leurs petits-enfants par ce moyen. Alors étant ni père ni grand-père de surcroît, j'utilise depuis presque 15 ans ce moyen de communication qui a tout bonnement remplacé les SMS et les emails. Le but, là encore, n'est pas de faire la promotion de tel ou tel moyen de communication, mais simplement de souligner jusqu'où vient se nicher cette notion de cliché et de préjugé. Là encore, ce n'est pas un sentiment de vexation qui me saisit, mais plus d'étonnement et de profond désarroi. Effectivement, parmi tous les mots en « isme » employés dans le titre de cette émission, sectarisme, chauvinisme, dogmatisme, communautarisme, j'aurais pu rajouter « agisme ». Alors certains découvrent peut-être ce mot, mais l'agisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de stigmatisation ou de mépris fondée sur une généralisation abusive et exagérée des effets du vieillissement. Mais cette ségrégation due à l'âge, rappelons-le, commence très tôt, dès la scolarité et dans tous les établissements scolaires, en règle générale. À l'ère où les médias numériques prennent beaucoup d'importance, plusieurs présupposés et préjugés touchent les personnes âgées et leur rapport aux médias, et ce sont ces présupposés à leur endroit qui participent à ce qui est appelé la fracture numérique. Une fois de plus, ce n'est pas que l'attitude et le regard des jeunes vis-à-vis des vieux qui est condamnable, mais comme l'ensemble de ce dont je parle, ça peut se lire dans les deux sens, à savoir le regard et l'attitude des vieux vis-à-vis des jeunes. Même s'il est vrai que chacun s'identifie à la génération à laquelle il appartient, avec ses valeurs, ses besoins et ses inspirations différentes, il est temps de changer de regard, du moins, je le pense. Au début des années 2010, l'Eurobaromètre des statistiques de discrimination montrait que l'âge était devenu le premier facteur de discrimination en Europe, loin devant le sexe, l'origine ethnique ou la religion. Dans cette dernière phrase, j'employais quelques termes sur lesquels on peut revenir. Je peux d'ailleurs la répéter, cette dernière phrase. Au début des années 2010, l'Eurobaromètre des statistiques de discrimination montrait que l'âge était devenu le premier facteur de discrimination en Europe, loin devant le sexe, l'origine ethnique ou la religion. Et c'était en 2010. Aujourd'hui, paradoxalement, alors je dis paradoxalement en raison des efforts qui semblent être mis en œuvre, c'est le sexisme qui arrive en tête. Et oui, le dogmatisme vis-à-vis des femmes est un phénomène complexe qui se manifeste à travers diverses formes de contrôle et de discrimination. Alors il est souvent lié à des systèmes de pensée assez rigides et à des structures patriarcales qui perpétuent des inégalités entre les sexes, telles que le plus souvent les rémunérations ou la nature des emplois. Mais moi, c'est du quotidien condescendant vis-à-vis des femmes dont j'aimerais parler. Et cela au travers de quelques termes nouveaux que vous ignorez peut-être, mais dont la définition et les exemples vous parleront certainement. C'est le mot « mansplaining ». Alors le « mansplaining », c'est un mot valise composé des mots anglais « man », « homme » et « explaining », « explication ». Est une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant. Alors ce terme paru en 2008 pourrait se traduire en français par « mec-splication » ou « pénis-pliqué ». Voilà. Un des exemples le plus courant est celui d'un homme interrompant une collègue femme pendant une réunion pour reformuler une idée qu'elle vient d'exprimer clairement, ou bien fournir une explication non sollicitée dans une conversation en supposant automatiquement que son point de vue est plus pertinent. Le mansplaining trouve ses racines dans des biais sexistes souvent inconscients, une socialisation genrée. Les hommes sont souvent encouragés à prendre la parole et à affirmer leurs opinions, tandis que les femmes sont socialisées à écouter et à éviter les confrontations. Les biais cognitifs, les stéréotypes sur les compétences des femmes dans certains domaines, sciences ou technologies, renforcent ce comportement. Alors, à votre avis, est-ce insignifiant ou ça peut avoir des conséquences négatives, significatives? Eh bien, ça induit une réduction de la confiance en soi. Les femmes peuvent se sentir diminuées ou invalidées dans leur contribution. Ça génère aussi des tensions relationnelles. Ça peut générer frustration, ressentiment dans les interactions professionnelles ou personnelles. Et ça renforce surtout des inégalités. En invisibilisant les compétences des femmes, le mansplaining perpétue les stéréotypes de genre. On commence à voir l'importance qu'il y a à revoir ses points de vue et ses habitudes lorsqu'ils sont sectaires, chauvins, dogmatiques, parfois ignorants, suffisants et condescendants. Et l'ensemble de ces préjugés et présupposés s'étendent encore à d'autres domaines. Alors après avoir vu le sport, la musique, les arts en général, la gastronomie, l'âge et le sexe, du moins le genre, abordons l'opposition Paris-Province, urbain, ruraux, campagne, ville. Là encore, appelez ça comme vous le voulez. Une fois de plus, étayez d'un exemple personnel. M'étant rendu chez un éleveur de vaches et de porcs charcutier, fermier, pour y acheter quelques produits qu'il transforme lui-même, je me suis vu proposer un bocal de côte de porc, accompagné de la phrase magique « Goûtez-moi ça ». Vous ne connaissez pas, mais vous m'en direz des nouvelles. Ça vous parle certainement à ce genre de phrase. Vous ne connaissez pas, mais restez au travers de la gorge. Comment peut-il imaginer, juste sur le fait que je n'ai pas l'accent du coin, que je ne connaisse pas ce qu'est une côte de porc? Sait-il que, depuis que les Halles de Paris existent, je ne parle pas de Rungis, mais des Halles où travaillait mon père, les meilleurs produits agricoles y passent et y arrivent en un temps record. Les meilleurs artichauts bretons ou les meilleurs melons de Cavaillon ou fraises de Plougastel sont à Rungis aujourd'hui, avant d'être sur les marchés locaux. Les commentaires généralement entendus dans les bistrots du coin sont « Ah, Paris, en dehors de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, puis du métro qui pue, puis des rats. Puis les Parisiens, en plus d'être râleurs, ils sont assez prétentieux. Hein. » Tout en soulignant qu'ils oublient que près de 30% des Parisiens, entre guillemets, sont originaires de province. Là encore, cette ignorance pousse certains à avoir une attitude et des propos condescendants, sans pour autant vouloir être blessants. Les provinciaux se plaignent souvent que les Parisiens comparent tout à Paris. « Ouais, à Paris c'est comme ci, à Paris c'est comme ça. » Mais les provinciaux sont identiques. Mais il n'y a pas que le regard de la province sur Paris à mettre en cause. L'inverse est aussi vrai et regrettable. Les Parisiens en vacances « Vous ne vous ennuyez pas trop l'hiver ici ?» Comme s'il n'y avait rien à faire en province en dehors de l'été. Alors je ne vais pas vous énumérer ici tous les clichés à deux balles qui nourrissent cette rivalité Paris-Province. Seulement relevez que ces affirmations gratuites, ces préjugés, cette ignorance entretient des fractures entre les individus, pour le moins identiques. Alors venant de parcourir ensemble différents secteurs dans lesquels se cachent le sectarisme, les préjugés, l'ignorance et la suffisance, attitudes et propos allant du regard porté sur des choses assez insignifiantes, genre la gastronomie, la musique, les sports, les loisirs en général, puis plus sérieusement sur les vieux, puis sur les femmes, abordons un autre domaine, les origines ethniques. Et voyons quels sont les principaux stéréotypes liés aux origines. Un stéréotype, par définition, est une opinion toute faite, une image préconçue et simplifiée qu'on peut avoir, entre autres, d'un individu ou d'un groupe de personnes. Ces stéréotypes qui conduisent aux préjugés, donc à des opinions préconçues, sont à l'origine des discriminations. Alors parmi les stéréotypes liés aux origines, on peut citer les origines ethniques et culturelles. Du genre, les Asiatiques sont bons en maths et travaillent beaucoup, les Noirs sont paresseux et violents, les Latinos, eux, sont chaleureux mais peu fiables. Le tout accompagné de tas de phrases racistes et insultantes, c'est du travail d'arabe, et j'en passe. Puis les origines nationales n'y échappent pas, telles que les Français, eux, sont arrogants et râleurs, les Allemands sont froids et stricts, rigoureux, les Italiens sont bruyants et désorganisés, voilà, etc. Puis les origines géographiques sur notre territoire en font partie, comme les gens du Nord sont froids et distants. Les gens du Sud sont chaleureux, mais fainéants. Ou les citadins sont pressés, impersonnels et inhospitaliers. Mais revenons un instant sur les stéréotypes liés aux origines. Alors sur les origines maghrébines ou africaines, les préjugés ne manquent pas. Hein. Manque de rigueur ou de sérieux, notamment en ce qui concerne la ponctualité ou la fiabilité. Association injuste à la délinquance ou au communautarisme, renforcée par certains discours médiatiques et politiques. Suspicion sur le niveau d'éducation ou de formation, même en présence de diplômes équivalents. Hein. Un médecin arabe ou un architecte tunisien, c'est louche. En ce qui concerne les origines asiatiques, on en a plutôt une bonne perception hein, comme étant de bons exécutants, mais peu créatifs, souvent cantonnés à des rôles techniques. Quant aux origines d'Europe de l'Est, ils sont souvent réduits au statut de main-d'œuvre bon marché, hein, avec une sous-estimation des compétences réelles. Préjugés souvent liés à l'accent ou à la maîtrise du français, parfois interprétés comme un manque d'intelligence ou de professionnalisme. Puis, l'ensemble des confusions entre origine et religion, pouvant engendrer des discriminations à connotation islamophobe ou antisémite. Questions inappropriées sur les coutumes, les pratiques alimentaires ou la tenue vestimentaire, comme si l'origine impliquait forcément des comportements spécifiques. Doutes sur l'intégration culturelle, notamment dans des environnements supposés homogènes. L'ensemble de ces exemples dont je viens de vous parler repose en général, voire essentiellement, sur trois concepts. Concepts souvent interconnectés, concepts pouvant souvent se renforcer mutuellement, contribuant à des tensions sociales, voire des conflits. La lutte contre ces attitudes passe par l'éducation, le dialogue et la promotion des valeurs telles que la tolérance et le respect. Rappelons brièvement quels sont ces trois concepts. Le sectarisme. Le sectarisme, c'est une attitude de fermeture et d'intolérance envers les opinions, les croyances ou simplement toutes les pratiques différente des siennes. Le sectarisme se manifeste par un rejet ou une discrimination envers ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses, ou les mêmes idéaux politiques, ou les mêmes attirances culturelles. Cette attitude peut conduire à l'exclusion sociale, à la marginalisation et parfois même à la violence. L'autre sous-jacent, l'ignorance. Alors l'ignorance est un manque de connaissance ou de compréhension sur un sujet particulier. Elle peut être involontaire ou volontaire. Dans le contexte du sectarisme, l'ignorance peut jouer un rôle en alimentant les préjugés et les stéréotypes. Là encore, l'éducation et l'exposition à la diversité peuvent aider à réduire cette ignorance en favorisant une meilleure compréhension et une plus grande tolérance. Le troisième, complétant souvent les deux premiers, est la suffisance. Alors c'est quoi cette suffisance dont je parle souvent tout au long de ce programme? Eh bien la suffisance est cette attitude de supériorité et d'arrogance envers les autres, souvent basée sur une surestimation de ses propres compétences ou connaissances. Alors elle peut être liée au sectarisme lorsque les individus se considèrent comme supérieurs aux autres en raison de leurs croyances ou opinions. La suffisance peut, elle aussi, renforcer les divisions sociales et empêcher le dialogue et la compréhension mutuelle. Ces trois concepts dont je viens de donner sommairement les définitions sont précisément le thème de cette émission, que je tiens à rappeler: sectarisme, ignorance et suffisance. Trois poisons qui n'épargnent personne. Et la dernière précision que j'aimerais formuler concerne l'ignorance. Alors généralement conçue comme un terme négatif ou péjoratif, puisque personne ne voudrait être considéré comme ignorant. La vérité est que nous sommes tous ignorants de quelque chose. Mais la pire est sans doute l'ignorance volontaire, qui est un choix conscient de ne pas acquérir de nouvelles connaissances. Et ce type d'ignorance peut être motivé par la peur, souvent le confort ou le désir de maintenir des opinions préconçues. Et les individus qui pratiquent l'ignorance volontaire se cachent souvent derrière des arguments fallacieux, ce que l'on a vu tout au long de ce programme. Alors même si dit avec beaucoup de sérieux, tous ces propos peuvent paraître anodins, qu'un fouteux ne connaisse pas Maria Callas ou qu'un violoniste ne sache pas qui est Lionel Messi, qu'un gastronome n'ait jamais mis les pieds dans un fast-food ou qu'un maçon n'ait jamais poussé les portes d'un musée. Mais ces comportements, dénonçant cette légère fracture existant sur les divertissements, sur la gastronomie et sur l'ensemble des sujets mineurs de notre quotidien, en dit long sur les fractures plus graves qui gangrènent notre société. Aujourd'hui, on se prend volontiers de pitié pour un camp ou pour l'autre dans les conflits qui sévissent sur différentes parties de la planète. Alors on peut penser à la Palestine, à l'Ukraine, au Soudan. Mais sans tant de suffisance, d'arrogance et de mépris dans nos habitudes quotidiennes, et avec davantage de connaissances des autres, de ces autres qui sont souvent comme nous, nous n'aurions peut-être pas ces attitudes belliqueuses et guerrières. Et si l'ordre du monde vacille, les remises en question ne sont pas à l'ordre du jour. Et c'est vrai que si l'on parle assez régulièrement du rôle de l'écrivain dans la lecture que l'on devrait avoir du monde, ou de celui des cinéastes dans la dénonciation des violences de notre société, et si l'on parle encore plus du rôle des auteurs-compositeurs engagés et de leurs chansons dans les luttes face aux injustices et aux préjugés, je pense que les radios associatives, entre autres, ont un rôle à jouer pour dénoncer et relatée d'une façon familière et abordable, tous les travers, même les plus anodins, qui accouchent souvent de saletés bien plus graves. Et tous ces exemples cités précédemment tout au long de cette émission, d'une banalité affligeante, qui ont peut-être égratigné quelques suffisants, pédants, arrogants ou tout simplement ignorants, ne sont qu'un pâle reflet de l'attitude générale face à la différence. Ces exemples ayant étayé cette émission, que ce soit dans les domaines du sport, de la culture sous toutes ses formes et autres, ne sont pas à prendre à la légère. Car c'est comme ça que naissent les premières démarcations, les premières limites, les premières frontières, conduisant à la séparation, allant rapidement à la détestation. Pour les biologistes humains, il est désormais acquis que les humains ne sont pas programmés génétiquement pour la guerre. Mais il a été démontré que la guerre est une adaptation évolutive visant à protéger le patrimoine. Ce principe, appelé aptitude inclusive, a permis aux premières communautés de protéger et d'élargir leur patrimoine aux dépens des autres. Voilà où conduit le protectionnisme, contraire au libre-échange, surtout lorsqu'il prend place en dehors des domaines commerciaux.
C'était une émission préparée, présentée et réalisé par Gilles Beigue.
Voilà comment j'avais envie d'aborder et de traiter ce sujet qui peut paraître anodin, mais qui, à mes yeux, méritait d'être regardé, voire analysé, avec la plus grande attention. La tendance actuelle étant, il est vrai, à la banalisation de tout, on finit par s'habituer et trouver ça normal. Puis, ces phrases acceptées et galvaudées, « Il est jeune, c'est un enfant », Oh, c'est un ado, ça lui passera. Ou alors, il est vieux, il ne sait plus trop ce qu'il dit, il ne sait pas trop ce qu'il fait. N'excuse en rien ce comportement de rejet pour tout ce qui n'est pas comme nous, comme on aime ou comme on pense. Je pense réellement que de s'ouvrir aux autres, à leurs loisirs, à leurs coutumes, et cela dès le plus jeune âge, permet de s'offrir le luxe de vivre en paix. Alors par paix, j'entends bien sûr paix intérieure, car il y aura toujours des abrutis sur Terre pour menacer la sécurité et l'intégrité physique des populations de notre planète. Et comme je le disais dans l'émission sur la tolérance, connaître et respecter les pratiques et les cultures des autres, quelles qu'elles soient, ne signifie pas les partager ni les aimer, mais les connaître et les comprendre est déjà une large porte ouverte sur un vivre ensemble plus harmonieux et plus paisible. Alors comme d'habitude, je vous encourage à réécouter cette émission si vous l'avez appréciée, la partager avec vos amis, la commenter en laissant vos appréciations sur le site orinoco-podcast, où vous trouverez d'ailleurs quelques illustrations dans l'article accompagnant ce podcast, ainsi que la liste précise des thèmes musicaux qui m'accompagnèrent tout au long de ce programme. Thèmes qui, pour une fois, ne furent pas monocolores, allant de l'opéra au jazz, en passant par le reggae, la pop, la variété et le tango, comme cette composition d'Astor Piazzolla, Soledad. Quoi qu'il en soit, et en attendant de vous retrouver le mois prochain, je vous souhaite le meilleur à l'écoute de vos radios préférées. À dans un mois, pour débuter l'année 2026 avec un sujet qui, je l'espère, saura vous intéresser. Ciao !